Géopolitique résiste-t-elle au cyber ? Le cyber, est-ce virtuel, immatériel ou matériel ? De quelle façon la couche matérielle du cyber est-elle un champ d'affrontement géopolitique entre acteurs étatiques, mais aussi non étatiques ? Pourquoi la couche logicielle du cyber est-elle un enjeu de l'expression des rivalités de puissance étatiques comme non étatiques ? Comment pouvons-nous comprendre la géopolitique des infrastructures numériques ? Dans le cyber, l'État est-il un acteur disqualifié ? Pour répondre, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Florian Manet, colonel de la Gendarmerie nationale. Il commande le volet opérationnel du commandement du cyberespace du ministère de l'Intérieur.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Colonel Florian Manet, bonjour.
Bonjour.
Au sujet du cyber, quelle est l'idée reçue qui vous semble inexacte et pourquoi ?
Alors je voudrais tout d'abord, pour commencer, contredire cette idée reçue comme quoi le cyber ne serait que de l'immatériel. On a tous conscience que lorsque nous installons notre ordinateur, nous branchons un câble RJ45, donc effectivement, tout n'est pas immatériel. Actuellement, on parle beaucoup des satellites type Starlink qui seraient la panacée pour communiquer partout, en tout temps et en toutes circonstances. Le conflit ukrainien l'a démontré. Et cet exemple-là vient aussi troubler notre perception du cyber. Le cyber, c'est avant tout l'histoire de 20 000 câbles sous les mers. Cette fibre optique, c'est 1,2 million de kilomètres de fibre optique qui parcourt, qui sillonne nos océans afin de transmettre 99% des données que nous échangeons. Des films, des photographies, des échanges mails, des ordres de bourse, tout cela emprunte la voie maritime. Par construction, le satellite n'est pas adapté à un tel flux de données, puisque le satellite a une latence assez élevée et ne peut délivrer que 1000 mégabits par seconde, tandis qu'un câble a une capacité de plusieurs terabits par seconde. Donc déjà, face à l'augmentation de notre dépendance par rapport au cyber, le satellite n'est pas un bon concurrent par rapport au câble sous-marin.
Florian Manet, de quelle façon la couche matérielle du cyber est-elle un champ d'affrontement géopolitique entre acteurs étatiques, mais aussi entre acteurs non étatiques ?
Alors, avant de répondre à cette question fondamentale, nous allons tout d'abord définir ce qu'est cette couche matérielle du cyber. Certes, il y a les câbles sous-marins, comme je l'ai évoqué précédemment, mais il y a aussi des data centers, des centres de données, d'hébergement de données, des serveurs. Mais aussi, il faut ajouter à cela deux autres éléments. Tout d'abord, l'ensemble des objets connectés, ce qu'on appelle l'Internet des objets, qui se multiplie à vitesse grand V. De manière emblématique, on peut penser à ces navires autonomes, mais plus simplement, plus prosaïquement, ce sont aussi tous les appareils électroménagers que nous pouvons avoir dans notre domicile. Au-delà de ça, il faut aussi évoquer le réseau d'alimentation électrique, puisque l'Internet, le cyber, l'ensemble de cette couche matérielle nécessite une alimentation électrique importante, produite à terre, mais aussi produite en mer, dans des fermes énergétiques au large des océans. Donc toutes ces installations matérielles sont devenues des véritables champs d'affrontement entre États, mais aussi entre acteurs non étatiques qui vont exploiter l'ensemble de ces vulnérabilités.
Est-ce que vous pouvez donner des exemples ?
Alors, effectivement, essayons d'imager les choses. Le premier élément que je voudrais évoquer est la révolution du Nord Stream 2. En effet, le 26 et le 27 septembre 2022, deux explosions successives ont mis à mal ce gazoduc
sous-marin,
donc qui s'étendait entre la Russie et avait pour destination l'Allemagne. Ces attaques humaines, malveillantes, ont eu lieu dans la zone économique exclusive finlandaise et danoise et viennent rompre un concept de base touchant ces installations offshore, immergées, qui était l'inviolabilité de ces installations. Donc ce qui est possible, ce qui était rendu possible dans ce conflit pour les gazoducs, peut très bien être transposé demain sur les câbles sous-marins.
Autrement dit, ce que vous êtes en train de formuler, c'est que précédemment, il y avait une forme d'accord qui était qu'on n'attaquait pas les gazoducs et tous les câbles sous-marins, c'est ça ?
Il y avait une sorte d'accord tacite qui était respecté à l'échelle internationale. Et là, le Nord Stream, l'affaire Nord Stream, crée un précédent qui inquiète et qui impose une nouvelle réflexion quant à la sécurisation de ces infrastructures de services essentiels que sont l'énergie, que sont aussi les communications.
Et face c'est des milliers de kilomètres de tubes et de câbles, on est d'accord ?
Tout à fait, répartis certes dans les eaux territoriales ou en zone économique exclusive, mais aussi qui sillonnent les océans, ce qu'on appelle au-delà de la, en haute mer, donc au-delà des eaux territoriales, qui, rappelons-le, recouvrent 64% du globe. Et la menace qui émerge actuellement est la menace de drones sous-marins qui ont été vulgarisés par le conflit ukrainien, à tel point que lors du sommet de l'OTAN de juillet 2023, il est apparu comme une décision unanimement reconnue au sein des membres de cette organisation militaire, comme quoi la protection des infrastructures critiques sous-marines se trouvant sur le territoire des Alliés demeure une prérogative certes nationale, mais peut déboucher sur un engagement collectif. Donc cette décision dit bien l'importance majeure qui est reconnue à ces installations sous-marines.
Juste une parenthèse pour signaler que la relance de la guerre russe en Ukraine a fait entrer l'usage des drones terrestres, aériens et marins dans une nouvelle dimension. Je me souviens avoir assisté dans l'amphifoche à l'école militaire, voici 5 ou 6 ans, à une conférence où on parlait de l'usage des drones, et on se faisait encore des nœuds dans la tête pour savoir si c'était bien, si c'était pas bien, s'il fallait le faire, si c'était moral, immoral. On est, à tort ou à raison, passé dans une autre dimension. Désormais, la guerre russe en Ukraine a rendu l'usage des drones plus important que jamais.
Alors, non seulement important, mais cette importance repose aussi sur une sorte de vulgarisation, de démocratisation, puisque quelques centaines d'euros peuvent permettre de financer un drone qui va être retravaillé, qui va être réadapté à des besoins militaires. Et ce drone va pouvoir créer une sorte d'asymétrie par rapport à des forces conventionnelles, puisque quelques centaines d'euros peuvent venir endommager durablement un matériel, un équipement militaire ou un navire de commerce, comme nous l'observons du côté de Bab el-Mandeb, où les Houthis s'attaquent à la flotte de commerce internationale avec des drones valant quelques centaines d'euros.
Ces drones changent donc la donne. Et est-ce que les États sont à la hauteur de la menace actuellement ?
Alors, cette menace sous-marine des guerres des grands fonds marins ou des fonds marins interroge les capacités de l'État à contrôler des grands espaces, leurs espaces maritimes, qu'ils soient territoriaux, donc qu'ils leur sont rattachés proprement, ou au contraire ceux de la haute mer, qui est un espace de liberté, mais dans lequel des conflits peuvent aussi se dérouler.
On va y revenir. Colonel Florian Manet, pour commencer, pour poursuivre plus précisément, pourquoi est-ce que la couche logicielle du cyber est devenu un enjeu de l'expression des rivalités de puissance étatique comme non étatique. Et c'est quoi d'abord la couche logicielle ?
Alors la couche logicielle et applicative, ce sont toutes les applications qui sont supportées par cette couche matérielle, donc par ces ordinateurs, par ces systèmes de réseau, de serveurs et de centres de bases de données. Ce sont principalement tous ces systèmes d'information qui permettent nos échanges commerciaux, qui permettent les prises de décision, qui nous permettent de communiquer tout simplement ou de produire, notamment dans le cadre de nos usines, ou de se déplacer. Et cette couche, finalement, crée une sorte de village global qui annihile toutes les distances, qui annihile les frontières, puisqu'il y a une sorte aussi d'uniformisation du recours à ces solutions qui sont développées par des grands opérateurs. On peut penser notamment aux GAFAM ou aux BATX, pour le côté plus asiatique. Et bien, toutes ces solutions et ces applications sont donc vulgarisées et s'uniformisent à la surface du monde. Ce qui ne manque pas de poser un certain nombre de problèmes en termes de régulation, des enjeux aussi liés à la souveraineté, à la gouvernance de ces réseaux, de ces solutions, puisqu'elles touchent finalement l'ensemble des acteurs, des opérateurs à la surface du monde.
Alors, qui est visé ?
Alors, qui est visé ? les attaques dont sont l'objet ces systèmes d'information, cette couche logicielle, vont varier en fonction des motivations. Les motivations de ces organisations étatiques ou non étatiques, voire criminelles, sont d'ordre financier pour le crime, peuvent être aussi d'ordre de revendications politiques, religieuses ou idéologiques, en fonction de l'ancrage de ces organisations à une cause criminelle ou une cause plus ou moins étatique. Si vous voulez, je vais vous prendre quelques exemples d'attaques logicielles de cette couche applicative. Ça sera plus parlant, ça peut l'être plus parlant. Cette modalité de conflit, d'affrontement, se fait à distance, bien souvent de manière anonyme. Et l'objectif de ces attaques est de neutraliser, en tout cas d'entacher, le bon fonctionnement d'un service permis par ces systèmes d'information, mais aussi d'exfiltrer des données qui sont devenues le véritable or d'aujourd'hui. Et ces données peuvent être revendues à d'autres acteurs qui vont en trouver d'autres usages. Donc finalement, on est pris dans une sorte de chaîne vicieuse où l'ensemble des faits cyber peuvent nourrir et les uns et les autres. Et prenons un exemple, notamment de ces rançongiciels. Donc le rançongiciel, c'est une cyberattaque qui vise à chiffrer un système d'information en intégrant dedans un dispositif. Ce chiffrement de cette solution, de ce système d'information, neutralise l'ensemble de son fonctionnement et des applications qui y sont dédiées. Et la victime, l'entreprise victime ou l'acteur victime, doit payer une rançon très élevée de manière à pouvoir recouvrer la souveraineté de son patrimoine en termes de... Ces rançons sont de l'ordre parfois de plusieurs dizaines de millions équivalents dollars, comme lorsque certains hôpitaux de la banlieue parisienne ont été touchés en septembre 2022. Et le paiement de cette rançon permet d'obtenir un déchiffreur qui permet... normalement, d'accéder, de déchiffrer la donnée qui était ainsi compromise par ces auteurs. On parle donc, ces groupes de rançongiciels sont signes, la plupart du temps, revendiquent leurs actes. On peut prendre l'exemple très fort de Lockbit, qui est le premier opérateur malveillant de ces malwares. Il y a aussi d'autres noms très, très poétiques comme Black Cat ou Phobos qui divulguent des rançongiciels, comme on dit en anglais, as a service, donc un service de rançongiciels qui sont offerts à des affiliés qui payent une contribution afin de pouvoir utiliser cette solution et de toucher des victimes. Les victimes, quelles sont-elles? Ça peut être des institutions publiques. Donc en France, je sais que l'Assemblée nationale a été touchée. Ça peut être des universités, ça peut être des ministères. Mais c'est principalement des acteurs socio-économiques, des entreprises, des fournisseurs de services essentiels, comme on a pu le constater récemment en septembre 2024 en Nouvelle-Calédonie, où l'opérateur fournisseur d'accès à Internet, Lagoon, a été touché par un rançongiciel.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise.
Pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, colonel Florian Manet, je rappelle qu'il y a un site qui s'appelle, je parle sous votre contrôle, cybermalveillance.gouv, où un particulier, une entreprise, une institution qui serait ou penserait être victime d'une malveillance cyber peut prendre des renseignements et être orienté utilement. C'est précieux dans ces moments où chacun a tendance à perdre un peu les pédales et à faire des bêtises et à payer la rançon. Dans certains cas, c'est justement ce qui est prévu, entre guillemets, par les criminels. Alors, comment pouvons-nous comprendre maintenant la géopolitique des infrastructures numériques?
Alors, pour aller un peu plus loin, il s'agit aussi, progressivement se dessine une sorte d'architecture des infrastructures numériques qui s'établissent à l'échelle de la planète. Et cette architecture détermine finalement une géopolitique, puisque derrière, il y a des acteurs étatiques ou non étatiques qui peuvent être aussi des acteurs et qui peuvent aussi utiliser ce nouveau champ de bataille pour faire prévaloir leurs intérêts. Le premier exemple qui nous suit depuis le début de cet entretien est ce réseau de câbles sous-marins à travers le monde, lorsqu'un opérateur, et actuellement ce sont principalement des opérateurs privés qui déploient ces câbles au fond des océans, nécessitant une technologie de pointe pour créer ces câbles-là et ensuite les déployer parfois sous de très hautes profondeurs avec de fortes pressions. Mais lorsque par exemple Google décide, dans le cadre de son initiative Pacifique Sud, de mettre en place un câble qui s'appelle Tabua ou Anneau Moana à travers le Pacifique, permettant de relier les États-Unis, l'Australie, la Polynésie française et Fidji. Donc ce travail-là va permettre certes de désenclaver des îles et des archipels isolés du Pacifique, mais c'est aussi un message qui est envoyé à ces populations-là, une sorte d'influence cybernétique, de manière à aussi favoriser potentiellement des ancrages. Deuxième focus, c'est le réseau Internet. Réseau Internet, et c'est souvent peu connu, agit comme une sorte d'iceberg. Il y a une partie émergée, c'est l'Internet ouvert, l'Internet, le web de surface, qui est opéré grâce à des moteurs de recherche.
Sur lequel les uns les autres nous circulons.
De manière quotidienne. Donc là, ce n'est que 5% de l'ensemble du réseau Internet mondial.
Alors le reste, c'est quoi ?
Les 95%, donc la partie immergée, se décompose entre le web profond, qui est donc un certain nombre d'informations qui ne sont pas indexées.
Par les moteurs de recherche.
Tout à fait. Qui sont des bases de données créées par des sociétés, par des entreprises, par des universités. Ce sont aussi des intranets d'entreprises ou d'institutions. Mais vous avez aussi une autre partie extrêmement riche, qui est le dark web, le web une sorte de web obscur, pour lequel l'accès est réservé à ceux qui détiennent un navigateur spécifique, qu'on appelle Tor, qui, entre parenthèses, a été développé par des agences de renseignement américaines, et qui permet d'accéder de manière non indexée à un certain nombre de données, et notamment de markets, de marchés, dans lesquels peuvent s'échanger un certain nombre de données, issues par exemple des rançongiciels, mais aussi faciliter le trafic de produits illicites, comme des armes, comme des produits stupéfiants, mais aussi tout ce qui est en lien avec la pédocriminalité. Mais au-delà de ça, il y a d'autres manières de mettre aussi en échec des localisations. Donc la géopolitique est aussi fondée sur la Terre, sur une certaine géographie, une répartition spatiale des acteurs, et un certain nombre d'outils mis à disposition des utilisateurs, comme le VPN, qui est donc un réseau privé virtuel, qui permet, au-delà d'un accès sécurisé et confidentiel, d'accéder à des données, donc de communiquer, sans préciser, ou en tout cas en prétextant d'une localisation géographique déterminée par son adresse IP, alors qu'elle ne correspond pas à son lieu véritablement géographique.
Par exemple, au lieu d'être identifié comme étant à Limoges, on est identifié comme étant à Helsinki.
Par exemple. Et ça peut avoir d'importantes conséquences, notamment dans des zones où la restriction de communiquer peut être une réalité, ou lorsque l'on veut dissimuler aussi son positionnement géographique pour éviter d'être identifié. Je peux aussi citer ces machines zombies qui sont des machines dont le contrôle est pris à distance par des hackers. Donc ça peut être votre ordinateur par exemple, et à travers lequel peuvent être déclenchées dans le monde entier une sorte d'attaque, l'émission d'un malware ou de messages qui vont saturer le serveur de destination.
C'est ce qu'on appelle des attaques par déni de service.
Distribuées, tout à fait, les DDoS. Donc là aussi, ces machines zombies montrent que le caractère géographique n'est plus un obstacle, on peut s'en affranchir de manière assez simple, et donc mobiliser à l'insu de leur propriétaire un certain nombre de machines pour commettre des attaques qui peuvent être ainsi dissimulées d'un point de vue géographique et donc rendre plus difficile l'identification des acteurs.
Et pour ce qui est des data centers, eux-mêmes, sont-ils des cibles ?
Alors, les data centers sont des éléments clés de cette chaîne qui facilite la communication par ces réseaux Internet, cyber. Ces data centers sont donc des éléments clés, la plupart du temps à la main d'organisations, d'entreprises privées. Et donc là aussi, il est difficile de faire un lien entre le régime, entre la compliance, en tout cas la coopération développée par une autorité étatique et le fait d'avoir d'héberger de tels data centers. Lorsqu'une enquête est menée, les enquêteurs recherchent principalement à accéder au data center dans lequel seront stockées l'ensemble des données qui vont pouvoir attester de l'origine de l'attaque, mais aussi le stockage des données qui ont été exfiltrées. Et donc là aussi, en fonction du degré de compliance de la société propriétaire ou de l'État hébergeur, l'enquête peut plus ou moins aboutir.
Avec une difficulté, si j'ai bien compris, c'est qu'il arrive quand un État, imaginons la France, est en mesure d'attribuer une attaque, c'est-à-dire de dire c'est tel pays qui a attaqué le système français, il y a un débat pour savoir s'il faut le dire sur la place publique ou pas. Parce que si on le dit, ça revient à dire que possiblement on donne à l'adversaire des renseignements sur comment on l'a su.
Alors la lutte contre la cybercriminalité ou la cyberdéfense en fonction du contexte dans lequel nous sommes, donc des logiques criminelles ou des logiques interétatiques, vont impacter la manière de communiquer de la part des autorités publiques en fonction aussi des objectifs qui leur sont propres. Donc la situation est à évaluer au cas par cas et en fonction aussi de stratégies d'enquête ou des stratégies aussi de remédiation ou des stratégies d'attaque ciblées qui ont été choisies par les États.
Alors ça nous amène tout ça à l'État justement. Colonel Florian Manet, dans le cyber, l'État est-il devenu un acteur disqualifié ?
Alors, si l'État n'est pas disqualifié, il est à tout le moins concurrencé par un certain nombre d'acteurs étatiques comme non étatiques. Je voudrais tout d'abord faire un premier focus sur les acteurs non étatiques, des opérateurs économiques, qui finalement ont un pouvoir de prescription, un pouvoir de service qui concurrence largement l'État, qui avant était maître des communications au sein de son espace territorial. Or, aujourd'hui, les CAP sont la propriété d'opérateurs économiques comme les GAMAM, donc Google, Apple, Meta, Amazon ou Microsoft, ou BATX en fonction de la zone géographique, donc BATX pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui finalement sont devenus de véritables acteurs géopolitiques à l'influence transnationale. Quel est le pouvoir d'action des autorités étatiques vis-à-vis de ces acteurs ? Là est aussi une question qui permet de comprendre le rôle ou le pouvoir des États à l'échelle internationale. Dans le même ordre d'idées, nous avons évoqué les fournisseurs d'accès à l'Internet, mais il y a aussi un certain nombre d'opérateurs de services essentiels, en termes de communication par exemple, qui proposent des services, des produits, qui là aussi sont contrôlés par des acteurs privés, et non plus par l'État. Donc on peut parler aussi de ces communications, de ces systèmes de communication chiffrés, comme Encrochat ou plus récemment Next, qui facilitent la communication entre acteurs criminels sur leurs activités illicites. Autre point d'interrogation concernant la monnaie, qui est aussi un des points caractéristiques de la puissance publique. De plus en plus, nous assistons à l'émergence de nouvelles devises numériques qui ne sont pas adossées sur les monnaies nationales, donc ce qu'on appelle les cryptoactifs, qui sont adossés à une chaîne de blocs, qu'on appelle donc la blockchain en anglais, qui est une technologie de stockage et de transmission de l'information, produisant des hauts standards de transparence, mais aussi en termes de sécurité. Donc beaucoup de ces les concepteurs de ces cryptoactifs ont voulu créer ex nihilo une monnaie de l'Internet sur la base de l'Internet, de la monnaie. Donc cela montre bien le caractère décentralisé, transnational et autonome par rapport à l'État.
Et puis il y a la question de la manipulation de l'information.
Alors ça, c'est l'un des points peut-être les plus cruciaux actuellement, notamment en matière d'ordre public, puisque qui détermine désormais la vérité ? On s'aperçoit qu'avec le progrès technologique, la vérité peut être modifiée. Je pense actuellement à ce qui se fait en matière d'intelligence artificielle. On est capable de prêter des propos à des personnalités publiques, à les mettre en scène dans une véritable mise en situation, alors que que celles-ci sont dépourvues de tout fondement réaliste. On s'aperçoit dans ce domaine que le cyber a un effet égalisateur. En fait, il n'y a plus de chronologie, il n'y a plus de hiérarchie entre un acteur étatique, une organisation cybercriminelle, voire des grands opérateurs qui fournissent des services essentiels dans l'économie du numérique. La parole, donc il n'a plus de poids, il n'a plus de référence, la vérité est changeante et mouvante. Donc effectivement, on se pose des questions en termes philosophiques, en termes d'éthique sur la liberté de communiquer et son pendant, qui est une certaine capacité, un devoir de l'État finalement de rétablir l'équilibre de la vérité en contrôlant peut-être aussi une certaine manière l'expression de ces opinions, de cette vérité.
Colonel Florian Manet, le temps va nous manquer, ce sujet est passionnant, et pour en savoir plus, quelle serait la ressource que vous pourriez nous conseiller ?
Alors, il y a une ressource officielle qui peut être conseillée. Il s'agit du rapport annuel sur la cybercriminalité 2024 que vous trouverez sur le site du ministère de l'Intérieur et qui a été produit par le commandement du cyberespace pour le ministère de l'Intérieur.
Est-ce que vous pouvez rappeler le titre exact du document ?
Rapport annuel sur la cybercriminalité 2024.
Merci. Un grand merci également à notre réalisateur, Guillaume Nougaret. Planisphère recevait Florian Manet, colonel de la Gendarmerie nationale. Il commande le volet opérationnel du commandement cyberespace du ministère de l'Intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine.